préparé à affronter Joseph Parker et ça s'est vu. Le Néo-Zélandais s'est imposé dès la deuxième reprise. Bacolé a donc perdu son pari fou, mais sans entraînement digne de ce nom, il n'a pas à rougir de sa performance. Cette défaite, la deuxième de sa carrière en 23 combats, met fin à une série de 10 succès d'affilée du géant de la RDC.
Et justement, direction la RDC pour parler football, le plus grand derby de la ville de Lubumbashi, au programme ce dimanche, mais sans public.
Alors que le match aller s'était tenu en octobre dernier après plus de 3 ans d'absence, les supporters sont forcément déçus de se voir encore privés du derby entre les deux grands clubs du sud de la RDC, le TP Mazembe, actuel leader du groupe A, et Lupopo, son dauphin. Un huis clos en raison du contexte sécuritaire dans l'est du pays. La mairie a déboursé quelques 69 millions de francs congolais, soit plus de 25 000 dollars pour garantir la sécurité de la rencontre et combler la perte de recettes. À Lubumbashi, Pascal Mangala.
Pour la mairie, cette mesure vise à prévenir des éventuels débordements dans un contexte politique particulièrement tendu en RDC. Elle donne pour exemple des champs exécuté en faveur du M23 au stade de Kibasa de la Kenya dimanche dernier lors d'un autre derby. Ce qui désole Jean-Claude Amondi, un fan de Lupopo.
C'est juste pour animer un peu l'ambiance du stade, mais que la politique en prenne comme prétexte pour que le match se joue à huis clos, c'est dommage.
Même sentiment pour Alain Moutach, un fan de Mazembe, qui espérait être témoin privilégié du premier derby des jeunes corbeaux enrôlés par le coach Lamine Ndiaye cette saison.
Nous avons des jeunes, talentueux d'ailleurs, ils sont en train de monter en puissance. Dans notre stade, en tout cas, on allait vivre une très grande rencontre, mais malheureusement, on n'en peut rien.
Occasion pour Alexis Kiansa, vice-président de la coordination des supporters de Mazembe, d'appeler les leurs à la communion d'esprit.
Mais nous demandons aux supporters de tout puissant Mazembe Anglebe de suivre les matchs à la télévision en union de prière.
Toutefois, l'ambiance électrique que provoque souvent le plus grand derby de la ville va manquer à l'appel. Pascal Mangala, Lubumbashi, RF.
Mazembe Lupopo, coup d'envoi 13h TU. C'est dans ce contexte tendu avec le conflit à l'est de la RDC en toile de fond que débute le tour cycliste du Rwanda. Une équipe, la Soudal Quick Step, a décidé de ne pas prendre le départ pour ses raisons de sécurité. Une 17e édition en forme de test à un peu plus de 6 mois des championnats du monde de cyclisme prévus à Kigali. Une grande première pour l'Afrique.
Et autre événement prévu cette année sur le continent, l'Afrobasket qui se tiendra en août en Angola.
Le Mali a décroché son ticket hier en remportant le choc face au Soudan du Sud, déjà qualifié 75-72. Qualification aussi de Madagascar qui a battu l'Égypte 82-80, ce qui met fin aux espoirs de la Centrafrique. Aujourd'hui, 6e et dernière journée des éliminatoires à 10h TU, duel décisif entre le Kenya et la Guinée pour un ticket. Même enjeu une heure plus tard entre le Rwanda et le Gabon.
Merci Victor Missistrano, c'était le journal des sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Et l'actualité internationale de ce dimanche 23 février, c'est Israël qui reporte sine die la libération des 602 prisonniers palestiniens jusqu'à ce que la libération des prochains otages israéliens soit assurée sans cérémonie humiliante. Hier, 6 otages ont été libérés, dont 5 ont été exhibés au milieu d'hommes cagoulés et en armes. Ces mises en scène ont été dénoncées à plusieurs reprises par Israël, l'ONU et la Croix-Rouge. Le Hamas, lui, accuse Israël de violation flagrante de l'accord de trêve. Jour de vote en Allemagne, élection législative anticipée, provoquée par la rupture de la coalition SPD, Libéraux, Verts en novembre dernier. Ouverture des bureaux de vote à 8h locales, 7h temps universel et édition spéciale ce soir et demain matin sur RFI pour analyser les premiers résultats. Édition spéciale demain aussi, RFI en direct de Kiev pour les 3 ans de l'invasion russe de l'Ukraine. À cette occasion, le Royaume-Uni annonce qu'il va dévoiler demain un important train de sanctions contre la Russie. Le Premier ministre britannique déclare qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de soutenir Kiev dans une tribune publiée par l'hebdomadaire britannique The Sun. Enfin, l'état de santé du pape François, 88 ans, reste critique et le pronostic du souverain pontife est actuellement réservé, indique le Vatican, qui évoque une crise asthmatique respiratoire nécessitant l'application d'oxygène à haut débit. Et on parle donc maintenant de jazz africain. On en parle à l'occasion du Dakar Music Expo, le grand rendez-vous de l'industrie musicale africaine qui s'est refermé hier dans la capitale sénégalaise. Une 6e édition placée justement cette année sous le signe du jazz. Pourtant pas le style musical le plus populaire sur le continent, mais certains travaillent à faire changer les choses. Reportage de Juliette Dubois.
On pense qu'il n'y a pas de jazz en Afrique, c'est ce qu'affirme volontairement provocateur Maouto Dik du festival Togo Jazz. Le genre souffre d'une mauvaise presse et Kossi Maoun, batteur togolais, le ressent depuis qu'il s'est lancé en solo en 2019.
C'est très difficile de gagner sa vie en tant que musicien de jazz en Afrique. Ici en Afrique, on aime danser, on aime se défouler, écouter de la variété. Le jazz, c'est peu de personnes qui écoutent le jazz.
Pourtant, de nombreux rendez-vous existent sur le continent, comme à Saint-Louis ou à Ouagadougou, preuve d'une grande richesse du jazz africain. Mais il manque encore d'une promotion suffisante. Doudou Sarr est l'un des créateurs du Dakar Music Expo.
Il n'y a pas assez de représentation, il n'y a pas assez de marketing autour de ça. Il n'y a pas assez de ressources financières qui sont mises dans la promotion et l'exportation des musiques africaines.
Pour Doudou Sarr, l'un des arguments de vente du jazz africain est de réclamer la maternité de ce genre, créé par les Afro-Américains descendants d'esclaves aux États-Unis. Il faut aussi mettre en avant sa singularité, inspirée des nombreuses traditions propres à chaque pays. Maouto Dik de Togo Jazz.
Lionel Loueke, qui est un guitariste très émérite, un béninois, qui accompagne Herbie Hancock, voilà, il fait du jazz. Mais par contre, il s'inspire de sa tradition béninoise pour composer. Même quand on prend Angélique Kidjo, ben, certains de ses chants viennent des couvents vaudous.
Les festivals étrangers, comme Marseille Jazz des 5 continents, veulent faire une place à ce jazz africain. Pour son directeur Hugues Kieffer, le Dakar Music Expo est un lieu idéal de rencontre. Il veut montrer aux jeunes talents qu'il existe une grande scène jazz dans le monde.
Il faut qu'ils aient la conscience, je pense, de leur identité à travers la scène et justement de ne pas singer ou de ne pas rentrer dans des modèles qu'on leur donnerait sans atteindre justement les millions. Mais on peut rencontrer une audience qui est intéressée et à travers le monde, il existe aussi une autre scène qui est aussi très intéressante et qui permet d'exprimer différemment peut-être ce qu'on est.
Doudou Sarr, également promoteur musical, se bat pour placer ses talents jazz. Il a conclu un partenariat avec le grand festival allemand Jazz Ahead et leur propose chaque année plusieurs artistes. À Marseille, le bassiste Alion Ouad sera sur scène cette année. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et demain, le reportage Afrique sera à Madagascar. On s'intéressera aux relations entre les Malgaches et la Russie et l'Ukraine. Et c'est un recueil posthume de poèmes qui nous intéresse maintenant dans Chemin d'écriture, direction le Zimbabwe, avec l'auteur Dambunzo Marechera, connu d'abord comme romancier. Il est aussi un poète inventif et moderne, comme on s'en rend compte dans son recueil Cimetière de l'Esprit. Bonjour Tirthankar Chanda.
Bonjour à tous et à toutes.
Vous avez choisi, Tirthankar, d'ouvrir cette chronique en nous faisant écouter la poésie de Marechera.
En effet, « Engager mon âme » est sans doute l'un des plus beaux poèmes de cet auteur. C'est un poème sur la nostalgie de l'enfance. Voici la première strophe.
« Quand j'étais enfant, j'escaladais tes seins de granit, doux et rond. Je glissais mon corps du creux de terrain à ta nuque souple. La rondeur de tes seins me servait d'oreiller. La rivière de tes larmes me faisait couler dans tes profondeurs. Et la douce plaine de ton ventre plat cédait au mien. J'étais à toi, tu étais à moi. »
Ces quelques vers ne sont pas sans rappeler la célèbre « Femme nue, femme noire » de Senghor, mais sans peut-être ce côté mièvre et romantique du poète de la négritude. Comme le rappelle le titre du recueil « Cimetière de l'esprit », les ténèbres aussi guettent ses pages, tout comme dans l'œuvre fictionnelle de Marechera.
Est-ce que vous pouvez justement nous situer cette œuvre de fiction et cet écrivain ?
Dambunzo Marechera est l'auteur de 3 romans, dont La Maison de la Faim, publié en 1978. Ce sont des romans avant-gardistes, inspirés du flux de conscience à la Joyce. Ils sont imprégnés de la vie déstructurée que l'écrivain a connue. Rappelons que son comportement anarchique lui avait valu d'être expulsé des lycées et des universités qu'il fréquentait, notamment d'Oxford, où on l'a accusé d'avoir tenté de mettre le feu à un bâtiment universitaire.
Et comment en arrive-t-il à l'écriture ?
Au dire de l'auteur, la littérature et la lecture furent son refuge. Issu d'un milieu modeste, Marechera a grandi dans la pauvreté et des privations dans la Rhodésie coloniale. Ils l'ont marqué pour la vie, comme le rappelle son traducteur Xavier Garnier.
Dambuzio Marichara est un auteur qui a beaucoup souffert. Il a eu une enfance extrêmement difficile. Il a été traumatisé par la mort de son père qui est mort dans des conditions atroces. Et il a pu voir son cadavre dans un accident de camion. Il a porté cette douleur, je pense, toute sa vie. Et la littérature, la poésie a été vraiment ce qui l'a fait tenir. Et plus que ça, cette opération poétique qu'il a réussi à faire, c'est de transformer ce noyau en quelque chose de vital. De ce trauma qui est nodal dans sa poésie que va naître ces éclats de vie que seront ses poèmes.
Et donc, malgré son titre, Tirtankar, tout n'est pas si sombre dans Cimetière de l'Esprit.
En effet, plusieurs nuances d'inquiétude et de noirceur habitent ces pages, marquées par une diversité de thèmes et de sensibilités. Ce recueil est composé de 12 cahiers et compte plus de 150 poèmes rédigés entre 1976 et 1987. Rassemblés par sa compagne et biographe Flora Weidwild, ces poèmes sont organisés selon les thèmes de prédilection du poète Xavier Garnier.
Des thèmes, oui, il y en a, on peut en identifier beaucoup. Il y a une poésie érotique qui est magnifique. Il a vraiment dans le rapport aux femmes quelque chose qui est d'une extrême sensibilité, une extrême tendresse, une extrême émotion. Et en même temps, il est capable de raconter des scènes très crues et très violentes. Il y a une poésie urbaine aussi, dont le grand texte « Trône de baïonnette » est une traversée de la ville d'Harare par un marais de Chéra qui est d'une certaine façon un SDF.
C'est une poésie qui est aussi à la fois une poésie très éthérée et très mystérieuse.
Pierre Leroux.
Et en même temps une poésie que l'on peut toucher au ras du sol. Il est littéralement couché dans un fossé à raconter son expérience. Et pour moi, c'est aussi un des éléments importants de sa poésie.
Pour Dambuzio Marichara, comme il l'a dit dans ses interviews, sa poésie parle de la déroute du réel pour s'abriter dans le royaume de l'émotionnel et de l'imaginaire, où l'être humain se spiritualise. La poésie comme quête spirituelle sera le thème du second volet de cette chronique, diffusée la semaine prochaine, en compagnie des deux traducteurs de Marichara, qui sont Pierre Leroux et Xavier Garnier.
Eh bien, la semaine prochaine, merci Tirtankar Chanda, c'était la chronique Chemin d'écriture. « 100% création » ce matin, Maria Afonso, avec Mélanie Garcia et Justin Emery, créateurs d'objets en verre.
On a étudié de nombreuses techniques du verre. Et nous, ce qu'on voulait vraiment réaliser dans notre atelier, c'est avoir beaucoup de techniques pour créer des pièces où on rassemble toutes ces techniques, pour tous les horizons du verre.
Et on rentrait du Québec et il y avait aussi les horizons de vie, vu qu'on venait de passer quand même 3 ans à l'étranger. Il y avait aussi cet aspect par rapport à notre vie, enfin, un gros côté professionnel, on va dire, et puis aussi un petit côté personnel.
Mélanie Gracia et Justin Emery, cofondateurs de l'atelier Horizon Vert. Mélanie Gracia a suivi une formation en art appliqué avant de se spécialiser dans le verre en France et au Québec. Elle s'inspire des textures et des formes naturelles pour créer des œuvres qui invitent à la réflexion sur la relation entre l'homme et son environnement. Elle utilise diverses techniques pour réaliser des œuvres poétiques et symboliques. Justin Emery, quant à lui, après son parcours académique en France et 3 années d'études au Québec, s'inspire de la nature. Il cofonde l'atelier Horizon Vert avec Mélanie Gracia et ses créateurs verriers partagent la passion du verre. Leur processus créatif est à la fois individuel et collectif. Mélanie Gracia.
Pour l'instant, on a chacun un peu nos gammes. Après, c'est sûr qu'on s'inspire, on se questionne mutuellement sur est-ce que ça va, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. On s'aide à l'atelier, on travaille sur les mêmes pièces. Après, l'idée fixe de base, elle part un peu de l'un et l'autre. Mais on voudrait faire des projets vraiment ensemble, où là, on réfléchit de A à Z ensemble à une pièce en commun.
L'atelier Horizon Vert est un lieu où Mélanie et Justin utilisent d'autres matériaux, comme le métal et le bois, pour élargir leur champ d'expression artistique. Justin Emery.
C'est exaltant de travailler d'autres matériaux et puis peut-être un peu moins, entre guillemets, ennuyant que d'être tout le temps bloqué sur un seul et même matériau. Et donc, inclure d'autres matériaux, ça permet d'avoir d'autres textures. Ça permet de travailler le métal, c'est-à-dire que je vais faire du verre pendant un mois, puis je vais avoir une semaine de métal, 2 semaines de bois. Ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis d'un point de vue visuel, c'est les matériaux qui se mélangent, c'est les textures, les contrastes, toutes ces choses-là.
Retrouvez l'univers de l'atelier Horizon Vert sur rfi.fr chronique 100% création et en podcast sur rfi.fr. Pure Radio.
C'était Maria Afonso. Restez avec nous sur RFI dans 3 minutes maintenant. Un nouveau journal, toute l'actualité internationale avec Jeanne Bartoli. Et c'est de la musique qui va nous amener jusque-là, celle du Malien Malaké sur la playlist RFI. Le titre, L'Incompris.
À chacun son problème, à chacun son affaire. À chacun son problème, à chacun son affaire. À chacun sa façon, à chacun sa manière, à chacun sa vie, à chacun son affaire. À chacun sa façon, à chacun sa manière, à chacun sa vie, à chacun son affaire. Kauka na jiginela, pekumu kumatika soma.
Da suma dona bubula digalangera mubula bubaga dona bere la dongili mala kununa mama gasoli gawili renyana koi da mozo mbonya lenu kini dara koi de mogo ko mogo tiere fo sugu nono gene mala ni ere no munila de mise fidini mana magoro basena tama kura zifene vitaka sigida baroni kuma ere ni toro sabu mala ge maguti kula sininye sigiri nana fini sameni kibona sameni kibona.
Toye balola finikisela, toye balola kabadela, sangalo tani fila kono, toye balola shodela, kauka na jigi ula, bekunu kumatika somadewa.